Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast d'Analyse F1, une nouvelle chronique déjà 3 jours après la dernière chronique. Là pour l'instant un rythme de podcast tous les 3 jours concernant les 3 derniers podcasts. J'espère continuer ce rythme et même l'améliorer en y incluant entre deux chroniques des podcasts un peu plus particuliers on va dire. Et d'ailleurs en parlant de ça, un élément de PodCloud, une fonctionnalité plutôt, pour être plus précis sur les termes, une fonctionnalité de PodCloud m'attire beaucoup afin de pouvoir réaliser ce que je compte faire hein, et qui reste flou pour vous et qui reste bien secret. Mais moi je sais ce que je veux faire, mais bon, après il faut le temps et les moyens de le faire, mais bon. Bref, cette fonctionnalité de PodCloud, c'est les playlists tout simplement. Ça peut paraître bête, mais pour pouvoir classer mes podcasts, par exemple, déjà là, à l'heure où vous écoutez ce podcast, j'ai déjà testé les playlists, que ce soit les playlists de mes émissions, les playlists pour Rétro GP, les playlists Rétro F1. Normalement, si tout s'est bien passé, elles sont déjà partagées à l'heure où vous écoutez ce podcast. Hein. Je ne peux pas lire l'avenir, puisque j'enregistre un peu ce podcast justement en avance par rapport à sa date de publication. Mais en tout cas, normalement, sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir ça, ou sur PodCloud, normalement, également. Je ne sais pas si on peut faire des recherches de playlists, c'est possible. Bref, en tout cas, 3 playlists pour l'instant, et peut-être d'autres qui viendront s'y ajouter. S'il y en a d'autres qui s'ajoutent, c'est une très bonne nouvelle pour Analyse F1. Ça veut dire que j'aurais pu faire ce que je compte faire avec ce projet, avec ce beau bébé, on va dire. Donc aujourd'hui, on va parler évidemment de F1 comme quasi tout le temps, et on va parler de Romain Grosjean et de son transfert de Lotus F1 Team à Haas F1 Team. Alors déjà, je parle de Romain Grosjean, pourquoi ? Eh bien, c'est un pilote français, donc je me doute bien que ça va intéresser la majorité d'entre vous, puisqu'on est en France, hein, et puisque l'auditeur moyen d'Analyse F1 est francophone, évidemment, hein, ça me paraît logique. Et ensuite, c'est intéressant d'un point de vue des transferts, parce que Grosjean, d'un point de vue plus global, si on prend un peu de recul, c'est un des pilotes dont on attend plus, on va dire. On attend de le voir dans un top team pour voir ce qu'il va donner. Il fait partie de ces pilotes comme Hülkenberg et Bottas, hein, qu'on attend de voir un peu plus haut, par exemple. Et donc là, il y a eu un choix de fait par Grosjean. C'est Grosjean qui a fait le choix, on ne lui a pas imposé. C'était même un peu une surprise pour tout le monde. Eh bien, il a choisi d'aller dans la nouvelle écurie de Guignas, une nouvelle écurie de F1 en 2016, assez fin team. Donc, de prime abord, on pourrait dire que c'est une prise de risque, car c'est une nouvelle écurie. Donc, en effet, les nouvelles écuries, on a vu dernièrement que généralement, ça battait de l'aile dès le début, et il n'y avait pas beaucoup de résultats, même par la suite, voire suivi d'un décès de l'écurie, hein, tel que HRT et Caterham, pour bien les citer d'ailleurs. Voilà. Et également, avant ça, Super Aguri, également. Mais finalement, ce n'est pas tant une prise de risque que ça, si on regarde la situation de Haas de plus près, puisque l'écurie américaine a eu le temps de se préparer. Pas comme justement ces 3 teams qui sont entrés en 2010 en Formule 1, qui étaient donc Virgin, Team Lotus, je crois, c'était sous le nom Team Lotus avant d'être Caterham, et HRT. Voilà, ces 3 teams sont entrés dans un autre contexte, avaient beaucoup moins de temps pour se préparer, et étaient bien moins prêtes que Haas l'est maintenant, et d'ailleurs, c'est un point que met en avant l'écurie américaine pour justement faire valoir que leurs objectifs de marquer des points dès le début de saison sont bien fondés. Donc voilà, espoir de points très vite pour le team et pour le pilote. Donc c'est intéressant comme projet pour Grosjean et Haas. Mais ce n'est pas le seul, on va dire, intérêt que vont y trouver le team et le pilote. Et d'ailleurs, je vais revenir sur les motivations de Romain Grosjean tout d'abord et les intérêts qu'il a à aller chez Haas. Pourquoi ne pas être resté tout simplement chez Lotus F1 Team ? Eh bien, tout simplement parce que la situation de Lotus est assez complexe. On sait que le rachat de l'écurie britannique par Renault tarde à se faire. Il y a des parlementations depuis maintenant plusieurs temps. Renault qui sauve la barque le temps de se décider, mais pas de décision définitive de la part de l'éventuel constructeur et actuel motoriste français. Et puis ensuite, à côté de ça, il y a peu de baquets de libre en F1 cette année. On a eu un statu quo dans les écuries devant. Même Force India a maintenu son line-up. Sauber également a maintenu son line-up. Donc, dans le cas où Lotus F1 Team ni Renault n'existent en F1 en 2016, eh bien, il fallait trouver autre chose hein, très vite. Hein, et Grosjean a pensé à ça tout d'abord et a eu raison. Faut pas se retrouver à la rue en Formule 1, parce qu'après, pour retrouver un baquet en étant éloigné de la Formule 1 même qu'un an, c'est compliqué. Hein. On le voit avec certains pilotes hein, qui n'ont jamais retrouvé de baquet après avoir eu cette fameuse année sabbatique qui est devenue finalement leur fin de carrière en F1. Donc attention, attention. Donc Grosjean a bien fait de prendre les devants. Et puis il y a un autre point très important également qui a forcément influencé le choix du pilote français. C'est que Lotus est en galère financière depuis 2 ans maintenant. Et que Grosjean est le pilote qui a tenu le team sportivement, justement, durant ces 2 ans, 2014 et 2015. La majorité des points et donc, on va dire, la majorité des revenus distribués en fin de saison au team britannique sont dus aux performances de Grosjean. Et en plus, il a eu une très bonne attitude avec le team. Ce qui fait qu'il quitte en très bon terme Enstone. Voilà, Enstone, les mécanos, etc. Parce qu'il a quand même des relations avec l'usine Enstone assez fortes hein, depuis maintenant environ 10 ans. Les mécanos et également, les ingénieurs, etc., etc. Mais bref, voilà, la galère financière dans laquelle est Lotus depuis 2 ans, eh bien, ça a influencé le choix de Grosjean. Ça me paraît évident. Et puis voilà, comme je l'ai dit, le fait qu'il soit talentueux et on va dire et sympathique, eh bien ça fait que quitter Lotus ne se fait pas, on va dire, dans le sang, comme ça peut se faire avec d'autres pilotes et écuries. Donc c'est un très bon intérêt que trouve Romain Grosjean là, parce que quitter une écurie sans être mal vu, c'est très bon. Et même il y a une possibilité de plus tard revenir à Enstone. Hein. Renault tient la porte ouverte, Lotus également. Grosjean la laisse également entrouverte au cas où. Hein, ben, il ne se refuse rien et il a totalement raison. Il a totalement raison et ça c'est donc c'est positif pour toutes les parties là pour l'instant. En tout cas quand je parle de Lotus et de Grosjean, donc tant mieux. Ensuite parlons d'un peu de Haas. Aller chez Haas, qu'est-ce que ça représente pour Grosjean? C'est un nouveau défi tout d'abord, un nouveau défi parce que il n'a jamais connu, on va dire, le fait d'aller dans une nouvelle écurie et d'essayer de la monter, d'essayer de l'intégrer à la Formule 1, d'essayer de faire profiter de son expérience. Ça, il ne l'a jamais fait et ça va être un nouveau défi. Et il y a aussi le fait qu'il quitte le confort dans lequel il était. Et oui, comme je l'ai dit, il était en relation avec Enstone. Donc Enstone, c'est l'usine qui était d'abord l'usine de Renault F1 Team et ensuite du Lotus F1 Team. Et donc Grosjean est en relation avec l'usine depuis 10 ans environ. Donc en effet, il était dans un confort assez certain puisque tout le monde le connaissait, lui connaissait tout le monde à peu près. Donc voilà, quitter le confort, c'est une sorte de prise de risque. Et c'est également intéressant du point de vue de sa carrière. C'est un peu comme ce qu'avait fait Hamilton. Bon, dans un autre registre, parce qu'Hamilton, c'était pas des écuries de même envergure. Hein. On parlait de McLaren, quitter McLaren pour rejoindre Mercedes. Mais dans l'idée, c'est pareil. Hein. Dans l'idée, c'est pareil. Hamilton, souvenez-vous, il était dans le confort de McLaren. Et il a rejoint Mercedes à la grande surprise, puisque Mercedes, en 2012... était loin de pouvoir remporter des grands prix, mais avait un projet sur 2 ans qui a fonctionné d'ailleurs. Et Hamilton a bien fait d'y croire et Hamilton a bien fait de changer, on va dire, d'air pour s'offrir autre chose et pour voir autre chose et avoir également élargir sa palette de pilote. Parce que certes, être pilote, ça rime avec la piste, avec le pilotage, avec ce qu'on fait dans la voiture, mais ça rime également avec les relations avec l'écurie. C'est aussi un sport d'équipe, la Formule 1. Donc c'est important d'avoir différentes cordes à son arc. C'est ce qu'a fait Hamilton, c'est ce que fait Grosjean, donc c'est très positif. Ensuite, voilà, Grosjean va aider à faire progresser la nouvelle écurie grâce à son expérience. En tout cas, c'est le but pour lui et également les Américains comptent sur lui pour ça également. Ce qui est positif pour Grosjean aussi, c'est de se faire connaître aux États-Unis. Et oui, parce que être dans l'écurie Haas, qui est très très connue via la NASCAR aux États-Unis, un NASCAR sport très suivi hein, aux États-Unis, sport mécanique, je crois d'ailleurs le plus suivi. Hein. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est largement devant l'IndyCar. Hein. Les spécialistes parmi vous me confirmeront ça, mais il me semble bien ça. Voilà. Donc voilà, il y a une grosse base de spectateurs qui connaissent Haas. Et de connaisseurs, et donc ils vont s'intéresser à Romain Grosjean, qui s'intéresse logiquement à ses fins de team, et qui vont s'intéresser aux pilotes, et donc à Romain Grosjean. Donc Romain Grosjean va avoir du support en plus, et il le sait, et il est content d'avoir ça. Et c'est intéressant, et c'est intéressant aussi d'un point de vue des spécialistes. Les spécialistes de sport mécanique aux États-Unis vont parler de Romain Grosjean, donc son pilotage et son attitude vont être décortiqués, donc à lui de bien faire comme il a su le faire ces dernières années. Afin de ben, tout simplement de s'offrir des opportunités à l'avenir et tout simplement que ce soit positif pour lui, pour sa carrière. Un autre aspect positif que vous devez attendre, je pense, puisque pas mal de médias en ont parlé ces derniers temps, c'est le fait que, inévitablement, comme le motoriste de Haas et Ferrari, eh bien, on fait le lien entre Grosjean et Ferrari. Donc ce serait, il y en a qui font le raccourci que ce serait le premier pas pour Romain Grosjean avant Ferrari. Et là, je leur réponds non. Je réponds non, non et non. Alors certes, c'est un lien intéressant qui existe, hein, qui existe parce qu'il y aura des relations entre le motoriste et l'écurie et donc avec le pilote. C'est un lien intéressant et Grosjean adorerait avoir l'opportunité d'être en rouge dans sa carrière. Ça c'est clair, et qui n'aimerait pas d'ailleurs, mais il a dit, il a très bien dit, il faut reprendre un peu ce qu'il dit, et le reprendre comme il faut, il a dit que pour l'instant, il est 100% avec le projet Haas, et il a raison. Il a raison, il n'a pas dit, il n'a pas dit que voilà, le projet Haas, c'est une passerelle avant Ferrari. Non, non, il a jamais dit ça. Par contre, les médias le disent. Et il faut garder la tête froide avec ces médias de la part de Romain Grosjean. Ça peut être compliqué parce que ces médias disent n'importe quoi, essayent de faire dire n'importe quoi, ont une attitude contre-productive parce qu'ils sont dans le supporterisme en fait. Ils sont dans le supporterisme, c'est-à-dire que voilà, c'est des médias français, ils sont pour Grosjean, ils veulent le voir en rouge et tout, c'est magnifique, assez fin team, as Ferrari, donc forcément Grosjean Ferrari, c'est n'importe quoi et ça peut desservir Grosjean plus que ça peut le servir de faire ça. Donc finalement, l'objectif de ces médias ne va pas avec leurs actes, c'est totalement paradoxal, c'est totalement contre-productif. Et il faut faire attention. Heureusement, Grosjean a la tête froide. Heureusement, Grosjean est préparé à tout ça. Et heureusement, Grosjean réagit bien et est professionnel. Il a de l'expérience et tant mieux. Mais voilà, heureusement que c'est pas un jeune pilote. Un jeune pilote pourrait réagir différemment. Et là, je vais faire une analogie avec le football pour ceux d'entre vous qui connaissent plus le football que le foot ou autant. Au football, c'est pareil. Les médias font pareil, que ce soit l'équipe, etc. Pas mal de médias, Canal+, et j'en passe et des meilleurs. Hein. Mais sans viser particulièrement, beaucoup le font, la majorité le font, que ce soit en France, à l'étranger également. Ce que les médias font beaucoup, mais bon, c'est vrai, on le voit beaucoup en France, bon, c'est parce qu'on est en France, évidemment, c'est que il y a des jeunes joueurs français qui ont un certain potentiel, mais qui n'ont encore rien prouvé au très haut niveau, eh bien on va leur bourrer le chou. On va leur bourrer le chou, on va dire c'est des cadors, il faut qu'ils soient appelés en équipe de France. Bref, ils ont fait deux bons matchs en août-septembre, et déjà ils doivent être appelés en équipe de France. Je crois que je vais faire analyse foot aussi, ça serait pas mal, mais non, il y a déjà l'after foot avec Riolo sur RMC, ça va très bien. Bref, petite parenthèse. Je vais citer des exemples de joueurs de foot. Donc par exemple, il y a Hatem Ben Arfa, Marvin Martin. Marvin Martin avec cette une, Je crois, je sais plus si c'était l'équipe ou France Football qui avait titré en une Marvin Martin, le futur Zidane. Où est-il maintenant? Je ne sais pas, mais après cette une, ça l'a détruit, le pauvre. Hein. Ça l'a détruit, il ne s'en est jamais remis. Atem Ben Arfa, à chaque fois qu'on l'a mis en lumière, ça l'a mis dans l'obscurité, malheureusement pour lui. Hein, et là, on recommence les mêmes erreurs à croire que les journalistes n'apprennent pas. Enfin. Je suis naïf, c'est tout simplement pour le buzz qu'ils font ça. Et oui, je recommence avec ça, mais c'est la vérité. Ils font ça pour le buzz, pour faire vendre, et le pire, c'est que ça plaît aux gens. Et c'est bien ça que j'aimerais faire comprendre, c'est qu'il faut. Il faut un peu arrêter et un peu être objectif. Et un peu être lucide, ça serait intéressant. Donc voilà, ça c'est des exemples de joueurs de foot à qui on a brûlé le chou. Mais heureusement, Formule 1, c'est un peu différent quand même le phénomène, parce que les jeunes au foot, particulièrement les jeunes joueurs français, sont pas très préparés, sont pas bien préparés à tout ça, puisque dès leur formation, on les prépare plus justement à être des stars plutôt qu'à garder la tête froide et pouvoir supporter un nouveau statut plus élevé. Voilà. Mais en F1, c'est différent parce que les pilotes sont préparés à tout ça, sont globalement imperméables, hein, sauf exception, il y en a peut-être quelques-uns. J'ai pas d'exemple en tête, hein, mais n'hésitez pas à m'en citer, de pilotes qui se seraient laissés avoir par les médias et du coup leur performance aurait baissé. Ah si, un exemple, c'est Valtteri Bottas cette saison. Il y avait tellement eu de rumeurs autour de lui et Ferrari qu'il avait avoué, il avait de lui-même avoué, et ça c'est très, très sincère, très honnête de sa part, que ça l'avait quelque peu déstabilisé, et ça avait déstabilisé également ses relations avec son écurie. Bon, maintenant, tout s'est arrangé apparemment, donc c'est cool. Mais voilà, voilà un petit exemple en Formule 1 de l'impact que peuvent avoir les médias quand ils font mal leur boulot. Et oui, j'ose le dire, hein, quand on base ces articles sur des rumeurs et qu'on en fait limite des informations, voire il y en a qui en font des informations, tout ça pour être les premiers et pouvoir dire « Ah voilà, on l'a dit, nous, on l'avait dit en premier », ben c'est mauvais, tout simplement, c'est du mauvais travail. Voilà, ça c'était pour parler un peu de ça. C'est important de parler de ça parce que, inévitablement, ça tourne autour du transfert de Grosjean. Et ça peut impacter le pilote. Donc il faut inévitablement en parler. Selon moi, c'est un sujet très intéressant à traiter ici et là dans mes chroniques. Bref, ceci étant dit, un autre point très positif pour Romain Grosjean, c'est qu'il va être le pilote numéro 1 de AC Fin Team. Et là, c'est important pour vous qui pouvez supporter Grosjean et tout. C'est vraiment important ce que je veux dire, parce qu'avoir ce statut, c'est vraiment toujours intéressant pour un pilote. Il l'a eu chez Lotus F1 Team de fait, même si, contractuellement, Maldonado a bien tiré son épingle du jeu. Mais on va dire sportivement, c'était le numéro 1 ces deux dernières années. Mais là, il va vraiment avoir un statut numéro 1, que ce soit de fait ou contractuellement. Mais à cela dit, hein, c'est notre pilote de pointe. Voilà, voilà les propos de l'écurie américaine. Donc voilà, je pense qu'il doit aimer être dans cette position-là. Et voilà, surtout quand on est un pilote avec ce talent-là, ça va lui permettre de se montrer avec ce niveau et de montrer qu'il est vraiment le numéro 1 dans cette écurie. Donc voilà, il va pouvoir montrer différentes choses. Et d'ailleurs, montrer différentes choses, c'est ce qu'attend l'écurie américaine. L'écurie américaine s'attache les services d'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur pilote qu'il y a sur le marché. Je précise bien qu'il y a sur le marché, en termes de talent et d'expérience. Et oui, il a déjà 28-29 ans, je crois, Romain Grosjean. Et en termes de talent, ben, il a 10 podiums à son actif. Hein. Il n'a pas non plus beaucoup de pilotes qui ont ça en Formule 1 actuellement. 10 podiums. Un podium cette saison inespéré à Spa en plus. Donc un podium prestigieux. Et c'est tout simplement sur la grille un des meilleurs qui n'est pas dans les top teams. Hein. Cheater avec lui Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, on pourrait peut-être même rajouter Sergio Pérez. Hein. On pourrait rajouter Sergio Pérez hein, dans la liste hein, parce que quand même il est capable de très grosses performances et cette saison il semble vraiment régulier. J'attends la fin, les derniers Grands Prix pour voir s'il ne se relâche pas, mais pour l'instant force est de constater qu'il est vraiment, vraiment régulier, plus que les années précédentes. Donc voilà, on pourrait citer ces pilotes par exemple. On pourra en citer peut-être d'autres, mais bon, faudrait peut-être attendre plus de voix. Il y a également un autre intérêt de la part de Haas et Fin Team, c'est que Haas estime Romain Grosjean comme bankable. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut faire vendre, qui peut totalement convenir à cette nouvelle écurie. Et d'ailleurs, il l'estime tellement bankable que As ne dit pas non à un essai en NASCAR, qui amènerait évidemment Grosjean à avoir une plus grosse visibilité qu'il ne l'aura déjà rien que de fait en étant pilote de As et F1 Team. Mais là, il aura encore une plus grosse visibilité s'il faisait même qu'un essai en NASCAR. Ça aurait un gros retentissement. On se souvient, quand des pilotes de F1 ont fait des essais en NASCAR, ça a à chaque fois eu un certain retentissement aux États-Unis. Et inversement, par exemple, quand Jeff Gordon avait essayé une Williams, il me semble, en 2003, si mes souvenirs sont bons. Enfin bref, c'était dans ces eaux-là. Et voilà, donc c'est très intéressant. Et en plus, ça intéresse beaucoup Grosjean, hein. On n'a pas forcé Grosjean à avoir envie de la NASCAR, hein. Grosjean, il a vu une NASCAR et une voiture NASCAR en visitant les locaux de Haas. Il a dit, tiens, est-ce que je peux monter dedans? Guignas a dit, ben ouais, vas-y. Et ça s'est vraiment passé comme ça, hein. Il a dit, ouais, vas-y, il s'est mis dedans. Et puis Grosjean, il s'est dit, ah tiens, il y a beaucoup de place à droite quand même. Ça lui faisait bizarre de ne pas être au milieu d'une voiture. Et oui, dans une monoplace, on est au milieu. Et là, ça fait un peu plus bizarre, mais ça l'intéresse beaucoup. Il voudrait vraiment tester ce monstre. Parce que les voitures de NASCAR, c'est vraiment des monstres, hein, ça c'est vrai. Dans le bon sens du terme, évidemment. Aussi, l'intérêt de Haas de prendre Grosjean, c'est que Haas veut que Grosjean aide à développer l'écurie dans le bon sens, les aide à s'intégrer à la F1, comme je l'avais dit tout à l'heure, mais c'est important de le rappeler ici, afin tout simplement de faire la meilleure entrée possible et de remplir les objectifs qui sont quand même élevés, c'est-à-dire rentrer dans les points dans la première partie de saison. Et ça, c'est quand même corsé pour une nouvelle écurie. J'attends de voir, hein. Même si Haas a eu plus de temps que d'autres écuries qui ont pu rentrer en F1 ces dernières années, j'attends quand même de voir comment ils vont rentrer dans les points dans les premiers Grands Prix. Mais pourquoi pas? Châssis commandé à Dallara. Dallara, hein, c'est quand même le constructeur italien qui fournit l'IndyCar. Reprenez-moi si je me trompe, mais je crois qu'ils fournissent l'IndyCar, j'en suis quasiment sûr. Et ils fournissent également la Formule E. Les châssis de base de Formule E sont des châssis de Dallara, hein, si également je ne me trompe pas. Mais pour les deux, je suis quasi sûr, hein. N'hésitez pas à revérifier ou à me le redemander sur les réseaux sociaux. Et je vous dirai, je vous confirmerai ça ou je vous infirmerai ça après une petite recherche, mais j'en suis quasiment sûr. Donc Dallara, quand même gros constructeur, et motoriste Ferrari qui leur fournira un moteur d'actualité. Donc c'est quand même intéressant, on peut espérer les croire en tout cas. Donc au final, les deux parties ont d'énormes intérêts positifs, que ce soit du côté de Assef Intime ou de Romain Grosjean. Donc c'est vraiment, vraiment un projet à suivre. D'une part, ben, c'est un pilote français, donc on va tous le suivre. Et aussi parce que ben, le projet en lui-même, dans le fond, est très intéressant pour toutes les parties. Le seul point négatif, finalement, c'est que Grosjean en 2016 ne pourra pas lutter, apparemment, pour des podiums et des victoires. Ben oui, la concurrence est quand même élevée avec Mercedes, Ferrari et tout et tout. Peut-être McLaren qui reviendra aux affaires, à voir. Donc ça va être compliqué, mais. C'est le seul point négatif, parce que Grosjean vise évidemment des victoires et des titres. Mais bon, ça peut être un moyen détourné pour y arriver. Et quel moyen détourné, hein? Je vous ai exposé tous les avantages que peut avoir Romain Grosjean à faire ça. Donc c'est vraiment, vraiment à suivre et c'est vraiment un bon choix de la part du pilote français. Maintenant, c'est à lui. Les cartes sont dans ses mains, sont dans les mains de Haas, mais sont aussi dans ses mains pour montrer qu'il est polyvalent, qu'il est capable de s'intégrer un nouvel environnement de course. Donc une nouvelle écurie, comme je l'ai dit, une écurie dans laquelle il sera pilote numéro 1, une écurie qui attend quand même pas mal de lui. Et s'il réussit tout ça, ce sera un gros plus pour lui aux yeux du paddock qui regardera ça de près comme toujours. Et les écuries se diront en conséquence, hein, si jamais tout se passe bien, ils se diront, lui, c'est vraiment un pilote de confiance et un homme de confiance. Pour nous, il a le talent, l'expérience, la confiance, polyvalent, on va le prendre. Voilà, les top écuries, les top teams, c'est ce qu'ils attendent d'un pilote, hein. Il sera vraiment un pilote accompli après tout ça, encore plus qu'il ne l'est maintenant. Voilà, eh bien, wait and see, comme on dit, et je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, sur @F1Analyse et sur la page Facebook de l'émission, donc Analyse F1. Je vous invite également à commenter sur analysef1.podcloud.fr pour laisser tout commentaire concernant mes podcasts. Et puis, en attendant le prochain podcast, vivons notre passion. À bientôt.